Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans tes réflexions les plus profondes au sujet de ton activité de freelance. Et dans l'épisode du jour, on va bien creuser ensemble. Tu m'as sûrement déjà entendu le dire, je considère vraiment que cette voie de l'indépendance que nous avons choisie, toi et moi, c'est aussi une voie incroyablement puissante de développement personnel. Et dans mon cas, je n'ai jamais autant appris et travaillé sur moi, et jamais autant grandi en tant que personne par la même occasion, que depuis que je suis à mon compte. Et sur cette voie, les outils que j'ai acquis pour mieux me comprendre, pour mieux me connaître, mieux me relier à mes propres émotions, mes propres ressentis, mais aussi les émotions, les ressentis des autres, et bref, tout ce qui touche à mon monde intérieur, ces outils ont clairement fait une différence incroyable sur comment je me sens dans mon quotidien, au jour le jour, et aussi sur ce que je suis capable de faire et de créer pour mon activité. Et j'avais très à cœur d'illustrer ces choses-là, ce monde intérieur, dans un épisode, et pour le faire, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Clotilde Dussoulier, la créatrice du podcast Change ma vie, où elle partage justement de très nombreux outils pour notre esprit et pour notre monde intérieur. Et c'est d'ailleurs un podcast que j'écoute depuis de très longues années. Et d'ailleurs, depuis que j'ai créé ce podcast Young, Wild and Freelance, Clotilde est sur la liste des personnes que j'avais absolument envie d'inviter. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir te partager cette conversation. On explore en long, en large et en travers de nombreux enjeux intérieurs qui nous touchent tous et toutes en tant qu'indépendants et indépendantes. Je t'invite vraiment à prendre des notes, car ce qui est partagé dans cet épisode est vraiment très précieux à mon sens pour chacun d'entre nous. Et si tu aimes ce niveau de profondeur dans les réflexions et aussi dans les pratiques pour passer à l'action dessus, je t'invite vraiment à rejoindre ma newsletter, car c'est exactement ce que j'aime le plus y partager chaque semaine. Et pour y avoir accès, tu peux t'inscrire sur thomasburbidge.com/newsletter. Et sur ce, je te souhaite une superbe écoute et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bienvenue sur le podcast, Clotilde.
Merci beaucoup. Merci de me recevoir, Thomas.
Avec plaisir. Je suis trop heureux. J'aime bien commencer par petite note de pourquoi on arrive là. Et je suis super content parce que depuis le tout début de ce podcast, j'étais un grand fan du tien à l'époque. Et tu fais partie des podcasteurs qui m'ont inspiré à lancer le mien. Et du coup, je suis très content parce que tu étais un des premiers noms sur ma liste de les gens que je rêve d'inviter. Et du coup, on y est. Bon, c'est la saison 5 maintenant, mais on y arrive enfin. Donc, trop heureux de discuter avec toi aujourd'hui.
Bah, c'est un plaisir. Ce dont tu parles sur le podcast est cher à mon cœur. Donc, je suis très heureuse d'échanger à ce sujet.
Cool. Et y a plein de choses que j'ai envie d'échanger avec toi. Je vais donner un peu mon intention avant qu'on se lance dans la première question rituelle. Mais l'intention que j'ai, c'est que je considère, et les gens qui suivent ce podcast, je pense, sont d'accord avec moi, je considère vraiment que la voie de l'indépendance, quand on devient freelance, qu'on se lance à son compte, qu'on lance son activité, c'est un chemin de développement personnel qui est assez dingue. Parce que on a... Dans mon expérience, en tout cas, j'ai jamais autant bossé sur moi que depuis que je suis à mon compte. Et dans ce sens, tout ce que toi, tu partages a été hyper précieux pour moi personnellement, mais aussi professionnellement, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut appliquer à son aventure entrepreneuriale aussi. Et du coup, j'ai trop hâte de t'entendre sur l'impact de tous ces outils et de toutes ces choses que tu partages sur ton aventure ou sur peut-être ce que tu as observé aussi chez tes clients et clientes en coaching. Donc ça, c'est un peu le... l'axe avec lequel j'arrive, l'envie de discussion qu'on a, mais pour rentrer dedans, je te propose qu'on commence par la question simple qui est simple et complexe. Comment, mais surtout pourquoi, est-ce que toi, tu es devenue indépendante?
Alors, moi, je suis devenue indépendante. Mon aventure d'indépendante date de 2005. C'est le 7 juillet 2005 que j'ai officiellement démissionné de mon job précédent qui était d'ingénieur en informatique. Et en fait, ce qui m'a porté à l'époque, donc à l'époque, moi, mon projet, c'était d'écrire autour de la cuisine. J'avais un blog de cuisine qui marchait bien. Et en fait, c'était très simplement à l'époque qu'il n'existait pas une autre façon de faire le métier que je voulais faire autre que d'être indépendante. En fait, je voulais écrire un livre, je voulais écrire des articles de cuisine, je voulais créer des recettes. Et en fait, il n'existait pas très facilement dans une entreprise un poste salarié qui permettait de le faire. Donc ça c'est la réponse un peu concrète et logistique. Mais je pense qu'en dessous, ce qu'il y avait aussi, c'est j'ai toujours été très indépendante d'esprit, c'est-à-dire j'ai toujours, enfin ça fait, pardon, c'est pas sorti comme je voulais le dire, mais j'ai toujours été très attachée à mon indépendance, ouais, à ma liberté et à ma capacité à faire ce que je voulais au moment où je voulais. C'est pas toujours une propension qui est évidente dans les relations avec les autres, mais en tout cas, notamment professionnellement, j'ai toujours détesté qu'on me micromanage. J'ai toujours beaucoup mieux fonctionné dans un contexte dans lequel on me dit clairement ce qu'on attend de moi et ensuite on me donne, voilà, on me laisse la bride sur le cou pour le créer. Et donc, je savais que de tempérament, cette indépendance pour créer mon activité professionnelle, ça correspondait à une envie que j'avais par ailleurs.
Du coup, ça, c'est un peu l'espèce d'élan qui te guide pour te lancer, cette envie slash besoin d'avoir vraiment la main sur à quoi ça ressemble ta vie pro, en fait, c'est ça?
C'est ça. Et en fait, ce qui a continué à m'animer depuis, c'est vraiment cette idée. En fait, c'est l'indépendance, mais le corollaire de l'indépendance, c'est la liberté. Et je suis aussi quelqu'un, j'aime bien que les choses aillent vite et j'aime bien que les choses soient faites comme j'ai envie qu'elles soient faites. Et en fait, il y a rien de plus, enfin, pour que les choses aillent au rythme auquel j'ai envie qu'elles aillent et pour qu'elles aillent dans le sens dans lequel j'ai envie qu'elles aillent, être à mon propre compte ou ensuite chef d'entreprise, c'est en étant le capitaine du navire qu'on a le plus de prise sur dans quel sens est-ce qu'on va sur le navire, quelle est la musique qu'on écoute sur le navire, quelle est l'ambiance, etc. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est presque un désir de créativité professionnelle. Le fait de pouvoir être vraiment la créatrice de ma vie professionnelle, il y a pas de meilleur moyen que d'être à mon propre compte puis à la tête d'une entreprise.
Ouais. Et du coup, je recontextualisais en disant l'élan parce que ça sous-entend ma question d'après. Parce que je pense toi comme moi, on le sait, on a toujours ces choses auxquelles on aspire, l'élan qui nous y emmène, mais il y a forcément aussi les freins et les blocages qui se dressent sur la route.
Et je serais curieux de savoir, a posteriori, bien sûr, en post-rationalisant avec tout ce que tu as acquéri depuis sur la compréhension de l'être humain, est-ce que tu arrives à identifier c'était quoi tes blocages à l'époque? Genre les choses qui font que, bah oui, il y a cet élan, mais c'est pas si simple que de quitter un emploi qui, j'imagine, marchait super bien de par tes expériences passées pour te lancer sur le blog?
Alors, dans tous les cas, parce que donc moi, je suis passée d'abord d'ingénieur en informatique à auteur culinaire. J'ai fait 14-15 ans de vie professionnelle en tant qu'auteur culinaire, et en parallèle, je me suis intéressée au développement personnel, au coaching, et j'ai fait une troisième transition, une troisième carrière vers le métier de coach, et j'ai créé mon entreprise de coaching. Et en fait, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'était vraiment une envie et une vision de ce que je pouvais créer, qui n'existait pas encore dans le monde, et de ce que j'avais envie de poursuivre comme intérêt, comme passion, et aussi beaucoup dans la transmission aux autres. C'est-à-dire, la cuisine, c'était la transmission de mon goût, de la nourriture bien faite et de la fraîcheur des ingrédients, etc. Et le coaching, c'est le goût de la transmission d'outils qui, à mon sens, changent la vie et dont je faisais le pari que ça allait servir à d'autres personnes qu'à moi. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est cette espèce de... Ça commence par la vision de quelque chose que j'ai envie de vivre ou de créer. Et ensuite, donc pour atteindre cette vision, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler, à quoi est-ce qu'une première étape, l'étape 1 ou l'étape 1 et l'étape 2, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Et ensuite, l'idée, c'est toujours comme ça que j'ai procédé, c'est de mobiliser mon énergie sur juste cette première étape et cette deuxième étape. C'est-à-dire pas essayer de réfléchir à toutes les étapes et qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la destination, mais vraiment plus porter mon attention sur ce qui me paraît accessible, quoi, le premier caillou pour traverser, enfin la première pierre pour traverser la rivière. Et pour ce qui est des obstacles, en fait, essentiellement, moi, ce qui a toujours été un thème récurrent, c'est plutôt la peur de déplaire. C'est-à-dire, c'est un peu ça, c'est-à-dire la peur de déplaire qui en fait se cache même quand ça marche. C'est-à-dire la peur que de plaire pour le moment, mais que ça va pas durer. Donc la peur du truc qui dégringole, la peur du truc qui marchait avant qui marche plus, la peur du truc que j'arrivais à faire mais en fait j'y arrive plus, ou la peur du talent que j'avais que j'ai perdu. Donc en fait c'est toujours cette crainte de déplaire ou de ne plus plaire. Alors à titre personnel et en fait, quand on est indépendant, c'est un des challenges, c'est de dissocier qui on est de ce qu'on crée ou de ce qu'on produit. Et donc ça, il a fallu que j'apprenne à séparer les deux. C'est-à-dire, la question, c'est pas est-ce que moi je plais, c'est est-ce que ce que je propose, ce que j'offre, ça plaît ou pas. Et les gens peuvent trouver que ça, c'est pas bien, mais ça veut rien dire sur moi en tant que personne, quoi.
Super intéressant, parce que ça me renvoie à... Pour préparer notre petite discussion, j'ai écouté pas mal de tes différentes interviews, en x2 bien sûr pour aller plus vite, mais j'en ai écouté pas mal.
Déjà que je parle vite, alors si t'écoutes mes interviews en x2...
J'ai réussi à suivre, et je me rends compte que du coup, est-ce que tu dis que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'étapes, comme tu le disais, cette peur de déplaire. Moi, je dis souvent aussi, c'est la peur de ne pas être accueilli, de ne pas être aimé. Elle prend plein de formes différentes, en fait. C'est comme si elle se déguise d'une manière différente. Et j'imagine qu'au début, c'était « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vont dire mes proches du fait que je lâche ?» C'est ce que beaucoup des auditeurs peuvent vivre aussi. « Qu'est-ce que mes proches vont dire que je lâche ce métier, ce boulot qui est bien payé ou ce truc pour lequel je me suis battu pendant toutes mes études pour me lancer dans un truc où je sais pas si ça va marcher ?» Plus tard, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vont dire mes clients si, je sais pas, je change ma manière d'opérer et je fais plus comme avant ?» Et j'ai l'impression que c'est la même peur au fond, finalement, non?
Oui, tout à fait. En fait, ça correspond toujours à la possibilité que l'approbation ou la validation, et donc derrière ça, l'amour des autres, ne soit pas inconditionnel, en fait. C'est de se dire, on m'accepte et on me récompense, on m'apporte de la validation parce que jusqu'ici j'ai fait certaines choses. Mais il est tout à fait possible que du jour au lendemain, d'un coup, en fait, on se détourne de moi, que je ne plaise plus, que ça ne résonne plus, etc. Et donc, en fait, c'est éminemment humain. Hein. C'est une crainte qui est assez universelle. Et donc, en fait, la question, c'est pas comment est-ce que je m'en débarrasse, c'est plutôt comment est-ce que j'aménage autour, c'est-à-dire quelle place est-ce que je lui donne, Parce qu'en fait, c'est aussi, ça peut aussi être un carburant si c'est utilisé correctement. C'est-à-dire que l'envie, par exemple, de toujours se renouveler, de répondre au plus près aux besoins et aux attentes des gens, d'écouter ce qu'on nous dit et de recueillir dedans qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui fait des bleus à mon ego, etc. En fait, c'est aussi je crois qu'il n'existe pas de métier qui soit exclusivement contenu pour la personne, c'est-à-dire quand on pratique un métier et qu'on vend quelque chose à quelqu'un, il y a toujours un quelqu'un. Et donc en fait l'idée c'est de se dire que cette envie de plaire ou cette crainte de déplaire, on peut la tourner à notre avantage en se disant c'est pas que je veux plaire, c'est pas que je veux qu'on me dise moi personnellement que je suis géniale, mais c'est que le meilleur moyen de poursuivre dans la relation et d'avoir une relation qui a une bonne longévité dans le temps, c'est de m'assurer que j'écoute la personne qui est mon client ou ma cliente, que je suis attentive à ses besoins, à ses retours, à ses commentaires, et que j'intègre ça pour améliorer sans arrêt ma pratique ou ce que je propose ou ce que je lui apporte.
J'adore ce que tu apportes là aussi, parce que ça me fait penser à quelque chose dont je parle souvent et sur lequel je suis allé un peu plus loin dans ma formation récemment, qui est la communication non violente, où c'est la base de comment j'interagis avec quelqu'un en étant à l'écoute de moi, mes sensations et mes besoins, et aussi les sensations et les besoins de l'autre, pour qu'on se rencontre à partir de cet endroit-là. Et je trouve que il y a plein de connexions que je fais du coup aussi avec le marketing, ce que tu expliques là sur le fait de vraiment être à l'écoute des besoins et attentes de ses clients pour bosser là-dessus. Et du coup, je suis curieux à comment tu le ramènes à ce que tu disais auparavant, qui est de dissocier ce truc de mon identité, et on parlera peut-être de l'identité après, parce que je pense que c'est un sujet fascinant sur tout ce qu'on fait à partir de qui on pense être. Et comment on dissocie ça de notre création? Enfin, peut-être que tu peux partager ce que toi, t'as entrepris ou ce que tu aurais voulu entreprendre à l'époque pour bosser sur cette peur de déplaire quand elle s'est manifestée dans ton activité.
Oui. Alors, je pense que ce qu'il est important de construire constamment, et je pense pas que ce soit jamais terminé comme démarche, mais ce qui est important, c'est d'arriver à dissocier dans son discours intérieur ce que je me dis à moi et sur moi, m'assurer qu'en fait, ce socle de connexion à moi-même, de relation avec moi-même et d'alliance avec moi-même, que ça, ce n'est pas conditionné par le résultat de mes actions. C'est-à-dire de pas me dire, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui, par exemple, qui est un freelance qui dépose un projet, qui fait une proposition pour répondre à qui fait un devis pour répondre à un besoin. Est-ce que cette personne-là, est-ce que elle, quand on lui dit oui, elle se sent bien parce qu'elle se dit je suis fort, je suis bon et tout. Et si on lui dit non, elle en tire des conclusions sur elle. Et en fait, l'idée, c'est de bien dissocier. Il y a moi qui suis qui je suis avec toutes mes qualités, tous mes défauts, mes failles, mes faiblesses, mes forces, etc. Donc ça, c'est qui je suis et je reste dans mon équipe quoi qu'il arrive. Et puis il y a cette opportunité professionnelle à laquelle j'ai répondu. Est-ce que j'y ai répondu du mieux que je pouvais? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et en fait, on arrive beaucoup mieux à apprendre de ses réussites comme de ses échecs si on ne se sent pas en fait personnellement remis en cause, si on n'a pas l'impression que à chaque fois c'est quitte ou double sur nous en tant qu'être humain, notre valeur. Et donc en fait c'est vraiment important de voir, et la difficulté, quelque chose que j'ai rencontré très tôt parce que justement ce que je faisais avait du succès, c'est que si on ne veut pas être démonté par les commentaires négatifs, il faut faire attention de ne pas se construire sur les commentaires positifs. C'est-à-dire, si je ne veux pas que quand on me dit c'est nul ce que tu fais, ça me mette au fond du trou, eh ben, il faut pas qu'en fait, quand je reçois un commentaire qui me dit franchement c'est génial et c'est extraordinaire ce que tu fais, il faut pas que je m'en serve pour construire ma confiance en moi là-dessus. Et ça, c'est très difficile. Je me souviens quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh là là, non, mais où je vais la trouver, ma confiance en moi, si c'est pas sur les commentaires. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai, du coup, en fait, ça revient toujours à développer cette notion que malheureusement, à l'école, on ne nous aide pas du tout à développer, qui est qu'est-ce que moi, je pense de moi? Qu'est-ce que moi je pense de moi, dans mes forces comme dans mes faiblesses, dans mes zones d'amélioration comme dans mes acquis, dans mes compétences comme dans mes incompétences, et en fait pouvoir s'appuyer avant tout sur notre évaluation, nécessairement subjective, mais idéalement une évaluation qui m'est utile parce qu'elle me donne confiance, parce qu'elle m'encourage, parce qu'elle m'aide à avancer. Et en fait, l'idée, après, c'est une fois qu'on a ça qui est bien solide, bah, on peut avoir des commentaires qui sont agréables, on peut avoir des commentaires qui nous paraissent désagréables, mais en fait, on n'est pas secoué par les vents comme un roseau où de temps en temps, ça souffle chaud, de temps en temps, ça souffle froid, et c'est ça qui fait notre météo émotionnelle.
Ouais, c'est ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, je crois, et c'est fascinant, j'adore cette conversation et ce sujet-là, parce qu'effectivement, je pense que la tendance naturelle qui émerge dans ces interactions, c'est de toujours vouloir performer, en fait, et avoir les félicitations. Et je pense que ça vient aussi du conditionnement un peu de l'école, tu vois. On a envie d'avoir des super bonnes notes, on a envie d'être félicité. Quand on a les mauvaises appréciations au conseil de classe, tout d'un coup, c'est une très mauvaise chose et on nous punit pour ça, etc., etc. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu dis, l'école nous enseigne pas à avoir cette relation plus saine avec soi-même, et qu'elle est hyper conditionnée sur l'entourage, mais presque elle entraîne le fait que ce soit encore plus fort et que du coup ça soit autant difficile à déconstruire. Et du coup, je serais curieux de savoir, à ton sens, c'est quoi peut-être une pratique ou quelque chose qui toi t'as soutenu pour déconstruire ça et justement revenir à Clotilde avec Clotilde, comment elle fait pour être à l'aise et épanouie avec soi-même, peu importe la vie des autres, qu'il soit bon ou
mauvais. Ben, en fait, ça passe par la construction d'un dialogue intérieur qui est un dialogue à la fois de bienveillance, d'encouragement, de complicité, mais aussi d'honnêteté. Parce qu'en fait, c'est important de pouvoir avoir justement cet espace, parce que comme on est hautement faillible et hautement imparfait, bah, il y a des fois où ce que je fais, c'est pas à la hauteur. Il y a des fois où ce que je fais, c'est raté. Il y a des fois où j'ai pas donné tout ce que j'aurais pu donner, où j'ai pris un raccourci, ou etc. Comme je suis assez perfectionniste, moi personnellement, ça m'arrive assez peu. J'ai plutôt le travers inverse, mais ça peut bien sûr m'arriver de me prendre les pieds dans le tapis, de dire quelque chose que j'aurais pas dû, d'avoir une réaction qui est pas celle que j'aurais voulu avoir. Et donc en fait, l'idée, c'est quand il se passe ça, de pouvoir avoir une sorte de débrief avec soi-même, qui est bienveillant, encourageant et complice, mais qui est aussi honnête, et de pouvoir se dire en toute honnêteté, mais sans jugement et sans se taper sur la tête, de se dire bah là franchement c'était pas génial, et donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait comme ci ou t'as pas fait comme ça, d'être très tourné vers la suite, c'est-à-dire si la même situation ou une situation similaire se produisait à nouveau, de quoi est-ce que tu aurais besoin, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, sur quoi est-ce qu'il faudrait que tu portes ton attention, qu'est-ce qu'il faudrait que tu t'apportes pour que ta réaction soit différente, pour que la quantité de travail que tu apportes soit différente. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est que on regarde un échec ou un truc passé qu'on trouve pas à la hauteur. On se critique, on se juge, on se condamne, et c'est tellement pénible qu'en fait, on préfère arrêter d'y penser. Et donc, en fait, on n'en retire aucun bénéfice parce qu'on n'a pas appris de leçons, on n'a pas imaginé une stratégie pour la suite, c'était juste ultra pénible, et donc on va manger du chocolat ou on va regarder une série et le lendemain on essaye de plus y penser.
Ouais, ouais. Et bon, ça revient à cet adage du fait qu'on perd jamais, on apprend à chaque fois, si seulement on va regarder, et je pense que c'est effectivement une démarche hyper importante qui est entrepreneuriale finalement.
Ouais, si on va regarder, et si on va regarder mais sans se juger, en fait c'est l'absence de jugement, parce qu'en fait si on se juge, et bien sûr on veut sous-entendu se juge négativement, en fait c'est exactement comme dans le monde salarié, s'il y a le manager qui va voir le collaborateur et qui lui dit mais enfin c'était nul, qu'est-ce que t'as fait, à quoi tu pensais, franchement je me demande pourquoi on t'a embauché, le collaborateur ou la collaboratrice n'est pas du tout en mesure de dire ben voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'a manqué, voilà quelle est ma difficulté, voilà comment on pourrait faire autrement. C'est juste la personne est écrasée de honte et il n'en ressort rien, quoi.
Et ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup qui va illustrer peut-être ce que tu dis là, sur le fait que souvent notre pouvoir de regarder les choses différemment et de faire le reframing que tu proposes de faire sur le fait que non, c'est pas un échec, qu'on peut apprendre et comment on fait la fois d'après, il se trouve dans le fait de créer de plus en plus d'espace entre la stimulation, tu parles du manager, mais ça peut être un client qui dit je suis pas du tout satisfait, c'est pas ce qu'on attendait, etc. Et ensuite, comment je processe et je réagis à ça. Et du coup, je sais pas si toi, t'as des partages sur comment tu fais pour recréer cet espace, parce que quand c'est dans le dur... Et tu dis, ben voilà, tu reçois ce truc et t'es dans la réactivité tout de suite de « Oh, comment je fais ?» C'est pas évident, quoi.
Oui, alors ça, je connais bien. Et en fait, c'est un des... Finalement, la plupart des gens qui sont freelance ou indépendants sont du coup à distance donc il y a beaucoup de communication qui se fait par email, et c'est à la fois bien et pas bien. Mais en tout cas, là où c'est bien, c'est que un email qu'on reçoit qui porte un message qu'on aurait préféré ne pas recevoir, au moins on s'attend pas à ce qu'on ait une réaction immédiate. Ce qui est différent si on est au téléphone ou si on est en visite chez le client, en réunion, etc. Où là c'est un petit peu plus où c'est un petit peu plus difficile. Mais en fait, ce que je suggère, et il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Ceci n'est pas un problème à résoudre. Et la suite de la phrase, c'est ceci n'est pas un problème à résoudre, c'est une émotion à accueillir. C'est en fait vraiment de savoir décaler le moment où on gère le problème émotionnel et le moment où on gère le problème logistique ou factuel. Parce qu'en fait, quand je reçois un email qui me dit on est très déçu par ce que tu nous as fourni, en fait, le problème dans l'instant, c'est pas que mon travail a pas été à la hauteur, c'est toutes les émotions que je ressens parce qu'on vient de me dire que mon travail était pas à la hauteur. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut effectivement, parce qu'on est un être humain et qu'on est des êtres d'émotions, enfin nos émotions, on les ressent beaucoup. En fait, c'est très important de pouvoir d'abord créer un espace d'accueil de ces émotions sans les bloquer, sans etc. pour pouvoir faire le tri dans ces émotions, comprendre ce qui se passe pour nous, se connecter et s'apaiser. Et une fois qu'on s'est apaisé, une fois qu'on n'est plus dans l'inflammation du stress, alors on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur manque, de quelle réassurance ils ont besoin, quel est le fichier que j'ai envoyé de façon en me trompant de fichier, etc. Parce qu'en fait, si j'essaye de résoudre le problème logistique ou factuel sous le coup du stress, de la honte, de l'embarras et de la peur, en fait, ça va pas bien se passer, ça va être pire. Généralement, c'est le suraccident, on réenvoie encore le mauvais fichier, on dit un truc de travers, enfin, ça se passe pas bien. Et donc, en fait, c'est vraiment pour ça que les outils de gestion de nos émotions et de connaissance de nos émotions sont absolument indispensables dans la vie professionnelle, et il faudrait que tous les professionnels en aient dans leur boîte à outils.
Clairement.
C'est qu'en fait, il faut arriver à reconnaître, dans un premier temps, la première priorité, enfin, la priorité, parce que c'est redondant, la première priorité. La priorité, c'est de commencer par m'occuper de ces émotions qui, en fait, vont m'empêcher c'est ça qui me bloque pour l'instant. Donc, je m'occupe de mes émotions, de mon coup de stress, et après, je réfléchis à tête reposée.
Ouais. Et ça amène superbe à quelque chose dont je voulais parler avec toi, qui est un sujet dont j'ai l'impression que tu parles pas mal. Moi, j'ai fait le lien encore une fois avec un autre principe que moi je tire du bouddhisme, qui est la neutralité des événements. C'est-à-dire que il y a un potentiel et une neutralité dans tout ce qui se passe à l'extérieur, auquel nous ensuite on va venir teinter de par les pensées qu'on a et les émotions qui découlent de nos pensées, et qui du coup sont, comme tu l'as si bien expliqué là, c'est à partir de là qu'on agit et qui du coup crée ce qui va se passer par la suite, parce que nos actions, elles viennent de comment on se sent et j'ai envie de réagir par rapport à comment je me sens. Du coup, je serais curieux que tu nous parles de ça avec un biais de peut-être comment ça s'incarne dans ton activité à toi, potentiellement il y a ces événements qui se passent, je leur donne une qualité soit positive, soit ici négative, comme on le dit. Entre guillemets, négatif, disons plutôt inconfortable, je préfère ce terme-là. Et ensuite, enfin voilà, toute la machine qui déboule, quoi.
Ouais. Alors, moi, la façon dont, dans le langage que j'emploie sur Change ma vie, on dit que les circonstances sont neutres. Et donc, il y a un épisode de Change ma vie aussi qui s'appelle Les circonstances sont neutres et qui aide à bien comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, pour bien préciser ce qu'on veut dire, l'idée, c'est pas de dire que, enfin, moi, je ne souscris pas à l'idée que toutes les circonstances se valent. C'est-à-dire que moi, je garderai toujours... C'est-à-dire, toutes les circonstances ne se valent pas à mes yeux. Il y a toujours des circonstances que je préférerais. Je préfère avoir tous mes clients contents que tous mes clients mécontents, par exemple. mais là où c'est vraiment utile, cette idée que les circonstances sont neutres, c'est comme une partie de cartes où tout le monde a un jeu qui lui est distribué pour commencer. C'est que quand on me distribue mes cartes et que j'en prends connaissance, mettons pour une partie de poker... En fait, potentiellement, c'est pas les cartes que j'aurais voulu, parce que par exemple, c'est que des cartes pourries. Mais néanmoins, c'est le jeu avec lequel je démarre. Et si je veux continuer à jouer cette partie-là, la question, c'est comment est-ce que je peux jouer ces cartes-là du mieux que je peux par rapport à ce que je veux, qui est éventuellement gagner la partie. Et donc, en fait, c'est plus ça. C'est de dire les circonstances ou ces événements sont neutres dans le sens où, au moment où ils viennent à nous, on n'a plus le contrôle dessus. Et donc, c'est notre point de départ. Et tout le temps que je passe à me disputer avec le point de départ, à vouloir faire des réclamations, à dire que c'est pas juste, à dire que pour les autres c'est plus facile, à dire que etc. C'est en fait, on peut en discuter, mais c'est pas de l'énergie qui va me mettre en chemin, qui va me mettre en action vers la résolution ou la transformation de cette situation qui ne me plaît pas. Donc, on peut accueillir les émotions, mais au bout du bout, si on veut changer la situation, il va falloir commencer par accepter d'en être là où on en est. Et donc, c'est en ça que les circonstances sont neutres. C'est une circonstance, même une circonstance que je n'aurais pas choisie ou qui me semble défavorable. La liberté ultime que j'ai, c'est de choisir mon angle de vue, la façon dont je me raconte cette circonstance et ma place et mon rôle et mon pouvoir face à cette circonstance, qui va m'ouvrir le plus grand espace de liberté et de pouvoir pour changer la situation dans le sens qui me plaît.
Ouais, ouais. Et effectivement, je trouve que la nuance est importante entre, je pense, la neutralité, ça veut pas dire que c'est forcément souhaitable ou non souhaitable. Et qu'effectivement, il y a plein de choses que on ne voudrait pas vivre. Une histoire que je raconte souvent ou qui, moi, m'a beaucoup marqué par rapport à ça, où j'ai fait ce cheminement, en fait, de changer de perspective, c'est la mort de mon père. Et je sais que c'est quelque chose qui t'est arrivé, je crois, récemment aussi à toi. Moi, ça commence à... Ça fait 7 ans maintenant. Mais du coup, j'étais un peu dans cet état-là où, pendant très longtemps, j'étais dans un endroit assez noir parce que je me disputais avec le point de départ. Je trouve que c'est une belle manière de le formuler. Et où je n'acceptais pas, en fait, que ce soit ça le chemin de vie qui me soit arrivé, sur lequel, au final, j'avais aucun pouvoir. Et le moment où j'ai commencé à me demander, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, une autre clé de lecture de cette situation et qu'est-ce que je peux en faire? C'est le point de départ de tellement d'autres choses dans ma vie et qui m'emmène aujourd'hui à ressentir à la fois une énorme peine, beaucoup de tristesse, mais aussi de la gratitude de cet événement-là, ce qui est un paradoxe incroyable et super gratifiant, je me dis. Mais du coup, je trouve que ça illustre très bien ce que tu dis. Et ça peut arriver même pour les pires choses de nos vies, quoi.
C'est ça. Ça peut arriver pour les pires choses de nos vies et ça arrive à longueur de journée dans des situations où, en fait, face à quelque chose qu'on n'aurait pas choisi et dont, par défaut, on se dit « ça, c'est pourri, c'est nul comme situation, ça me plaît pas, c'est très défavorable », le fait d'avoir cet espace, ce petit espace de remettre cette situation dans la case neutre et de se dire, si c'est neutre, ça veut dire que je peux en penser que c'est pourri, ou je peux en penser que c'est rien, c'est-à-dire ni pourri ni génial, mais ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a une façon de regarder ça en me disant, en fait, c'est super. En fait, c'est super pour moi, en fait, c'est une super opportunité. En fait, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout est potentiellement disponible, de l'interprétation la plus défavorable à l'interprétation la plus favorable. Et souvent, quand on essaye de faire cet exercice, c'est-à-dire face à une situation qui nous paraît défavorable, par exemple, un projet qui tombe à l'eau, une collaboration qui se passe pas bien, etc., le fait de se poser la question et de se dire, si c'était en réalité, si dans 20 ans, je me dis, en fait, ce truc qui s'est passé, c'était la meilleure chose qui puisse se passer à ce moment-là pour moi, dans ma vie professionnelle, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe après? Ou d'essayer de mettre les choses en perspective en se disant, si c'était en réalité génial, qu'est-ce que ce serait? Alors après, ça ne retire pas dans l'instant les éventuelles émotions négatives qu'on ressent, mais ça permet de trouver une perspective et ça, c'est toujours ce qu'on essaye de faire avec nos clients et nos clientes, c'est on essaye d'ouvrir autant que possible l'angle de vue. Parce que par le fonctionnement de notre cerveau, en fait, on a tendance, par défaut, à penser que notre angle de vue, c'est la vérité. Il y en a qu'un seul, c'est celui-là. Notre cerveau nous dit toujours que ce qu'il pense, c'est vrai. Et en fait, à chaque fois qu'on peut se décoller de cette et questionner notre façon de penser, questionner notre façon d'interpréter, questionner notre façon de tirer des conclusions, en fait, c'est là que se trouve notre liberté et tout notre champ d'action.
Ouais, et il y a plein de superbes exercices de rééquilibrage ou d'aller voir les zones d'ombre que le biais de sélection et de confirmation de nos cerveaux ne nous laisse plus l'accès à ce genre de choses. Et clairement, je te rejoins à fond là-dessus. Et je voulais juste célébrer parce que je trouve qu'il y a eu un cheminement super fluide et logique entre plein d'idées qui finalement, de toute façon, sont toutes liées. Et enfin voilà, je me rejoins en compte, ça fait une demi-heure. Qu'on rebondit de fil en fil, j'adore ça. Mais je voulais juste, peut-être pour faire le sommaire de tout ça et revenir sur une des questions avec lesquelles je voulais attaquer, mais qui arrive en milieu d'épisode, c'est OK, qui est, après tout ce temps et tous les outils que tu as partagés, tous les apprentissages que tu as eus et développés avec le temps sur la connaissance du fonctionnement humain, tous ces outils pour l'esprit, comme tu le dis, si tu devais là, si tu te regardes toi-même et que tu te dis, OK, c'est lesquels qui ont vraiment été le plus utile pour moi dans mon cheminement d'entrepreneuse, d'indépendante, de vie peut-être aussi, tu penses que tu choisirais lesquels? Je serais curieux de savoir si on écume toutes ces belles choses.
Alors, je pense que moi, ce qui a été vraiment central et ce qui le reste aujourd'hui, c'est le concept d'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire le fait de se rendre compte que les émotions que je ressens dans mon corps ne sont pas créées par les circonstances extérieures, par ce qui se passe autour de moi, mais par mon interprétation.
Ni par les autres, du coup.
Voilà, pas par les gens, pas par ce qu'ils disent, pas par ce qu'ils font, mais par les pensées que moi j'ai dans la tête et auxquelles j'adhère. C'est ça qui crée mes émotions. Et ça, pour moi, ça a été absolument révélateur, enfin une révélation au moment où je m'en suis, où j'ai réalisé ça, où j'ai compris le mécanisme. Parce que justement, j'avais tendance, comme je suis quelqu'un qui ressent assez fortement ses émotions, et j'ai un terrain assez anxieux à la base. En fait, finalement, j'évoluais dans ma vie en étant toujours un petit peu en train de craindre qu'il se passe certaines choses ou qu'on me dise certaines choses ou qu'il ne se passe pas certaines choses, parce qu'en fait, je me sentais condamnée si les gens ne faisaient pas ce que je voulais ou si les choses ne tournaient pas comme je voulais. Je pensais que ça me condamnait à ressentir certaines émotions que j'avais pas envie de recevoir, de ressentir. Et donc, du coup, j'essayais de contrôler l'univers et j'étais tout le temps un peu à marcher sur des œufs, à me dire pourvu qu'il ne se passe pas tel truc, parce que sinon, je serais obligée de me sentir anxieuse, débordée, stressée, déçue, honte, tout ça. Et en fait, en m'apercevant que dans toutes ces circonstances-là, en fait, c'était moi qui créais ces émotions, bah, du coup, ça m'a beaucoup apaisée, parce que je me suis dit, il peut se passer toutes ces choses, je resterai toujours libre de qu'est-ce que je choisis d'en penser, qu'est-ce que je choisis d'en tirer comme conclusion, qu'est-ce que je choisis de me dire, et c'est ce que je choisirai de me dire qui fera que je me sens bien ou pas bien. Et ça a tout changé, notamment dans ma pratique professionnelle, parce que justement, c'est cette idée d'indépendance, ça m'a rendu c'est-à-dire que le moteur émotionnel que je mettais dans ma pratique professionnelle quotidienne et encore aujourd'hui, en fait, je peux générer ce carburant émotionnel pour faire ce que j'ai envie de faire avec l'état d'esprit et la météo émotionnelle que j'ai envie d'avoir, et ça ne dépend pas de l'alignement des étoiles, de l'humeur des gens autour de moi, de est-ce que voilà, un tel est content, un tel a dit ci, un tel a dit ça. En fait, j'ai cette espèce de voilà, cette indépendance émotionnelle, il y a pas de meilleur mot pour le dire, et ça c'est une source de liberté et d'apaisement au quotidien qui est énorme.
Clairement, je te rejoins à fond et je serais curieux de savoir du coup si tu as des souvenirs précis de choses qui se sont passées dans ton évolution, dans ton business, qui ont fait que ce truc-là, ça a été vraiment ultra utile, ou ça t'a apaisé, ou ça t'a aidé à transformer quelque chose de compliqué. Si tu as des souvenirs particuliers.
Je pense que ça reste quelque chose qui me suit aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment... Alors, c'est d'une part l'idée de me dire... Enfin, d'avoir cette créativité émotionnelle, c'est-à-dire de pouvoir décider pour moi-même quel est le climat émotionnel dans lequel j'ai envie de vivre ma journée, et que ce climat émotionnel, c'est moi qui le crée de toutes pièces, et en fait, j'ai pas besoin de l'approbation ou de quoi que ce soit d'extérieur pour me sentir comme ça. Et c'est aussi l'idée d'accueillir des résultats, des nouvelles, des commentaires, etc. Et en fait, je pense que là où ça se joue sans doute le plus, et je pense que parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y en aura beaucoup qui pourront s'y identifier, c'est les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit les commentaires sur un post ou les commentaires sur un épisode de podcast ou etc. En fait, il y a cette espèce d'exposition qu'on ressent quand on crée du contenu qui est posté sur Internet. C'est qu'en fait, on a vraiment l'impression de prêter le flanc. N'importe qui a une connexion Internet peut dire absolument n'importe quoi. Et en fait, il peut y avoir vraiment cette exposition à l'avis de quelqu'un qui l'exprime, Et ça, pendant longtemps, alors j'ai plutôt la chance d'avoir une communauté qui, voilà, qui globalement est respectueuse et voilà, les gens qui aiment, ils restent, les gens qui n'aiment pas, ils passent leur chemin. Mais ça peut arriver au détour d'un post Instagram ou d'un épisode de podcast d'avoir un commentaire négatif. Ça fait partie du deal. Et en fait, je le prenais avant très personnellement. C'est-à-dire que, en fait, ça me heurtait vraiment. Et ça pouvait, pendant toute une journée, en fait, en plus, je suis très attachée aux mots. Je me souviens bien des mots. Et donc, en fait, il y avait des bribes de phrases qui me revenaient, etc. Avec, en plus, ce biais de négativité du cerveau où un commentaire désagréable, d'un coup, prend toute la place et les milliers de commentaires positifs ou favorables ou de compliments, d'un coup, voilà, n'ont plus aucune sorte d'existence. Et donc, en fait, c'est là où cette indépendance émotionnelle permet de créer un sas, en fait, entre cette opinion qui est exprimée par quelqu'un qui a le droit d'avoir cette opinion et qui a le droit de l'exprimer parce que c'est les réseaux sociaux, tant que c'est pas insultant ou etc. Et ce que moi je choisis d'intégrer, ce que moi je choisis de laisser entrer dans ma journée en fait.
Est-ce que tu as des pratiques qui soutiennent ça du coup? Parce que je dans mon petit travail, je me suis rendu compte que ben effectivement on a toujours ce flow là. Moi je l'ai et je me demande si par exemple tu as reçu des commentaires sur ton évolution maintenant que vous êtes plusieurs et que tu as une équipe, peut-être que ça a changé des choses et que ça déplaît à certaines personnes. Comment tu fais pour faire la différence entre c'est du feedback intéressant à prendre de mon audience et de mes clients, mais ça m'atteint pas en tant que personne émotionnelle, comme tu le disais là. Est-ce que, je sais pas si tu as des pratiques qui soutiennent le fait de faire cette différence-là?
Alors, d'une part, nous, en coaching, on a des outils qui permettent au quotidien de faire le point avec soi, d'écouter les émotions. Donc ça, c'est des choses qu'on transmet aux personnes qui suivent notre programme de coaching, qui sont en fait des outils de connaissance de soi et de. En fait, ce qui est important, c'est de garder une bonne connexion avec soi-même et comment on se sent. Parce que si on le fait pas régulièrement, en fait, on peut passer des jours et des jours sans se demander comment ça va. Et puis en fait, on s'aperçoit que ça fait 3 jours qu'il y a un truc qui nous gêne ou qui nous tourmente. Et en fait, on n'a pas pris le temps de s'y intéresser. Donc ça, c'est déjà une pratique quotidienne que j'ai. Et ensuite, l'idée, c'est toujours de me remettre dans le contexte de ma mission et de la mission de l'organisation que j'ai créée. Donc, la mission de Change Ma Vie. On a une mission qui est de diffuser et de rendre accessible au plus grand nombre les outils qui permettent aux gens de créer la vie extraordinaire à laquelle ils aspirent, la vie extraordinaire qui leur ressemble. Donc, de développer leur vision, de trouver la clarté et de soutenir leur élan en direction de cette vision. Et donc, cette mission qui est la mission de Change Ma Vie, elle se décline à travers le podcast, à travers ce qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux, elle se décline dans le programme de coaching où là, on a une méthodologie et un accompagnement qui est beaucoup plus construit. Et en fait, l'idée, c'est une personne qui a un commentaire négatif ou qui trouve que ce qu'on fait, ça va pas ou que c'est pas bien, etc. En fait, l'idée, c'est de toujours l'intégrer. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une personne qui n'est pas d'accord avec notre façon de poursuivre notre mission, ou est-ce que là-dessus, on a failli à notre mission? Est-ce que là, on n'est pas en ligne avec notre mission? Et en fait, ça me permet de... Là, c'est plus Clotilde en tant que personne. Est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? C'est est-ce que dans la poursuite dans la poursuite de notre mission, est-ce que ça, c'est un signal qui est à prendre en compte? Ou est-ce que c'est un signal, j'allais dire parasite, mais ça paraît négatif pour la personne qui l'a dit, mais en fait, c'est un signal qui est juste, voilà, c'est une personne qui n'adhère pas à notre façon de poursuivre notre mission et on n'aura jamais 100% d'adhésion. Donc,
Et j'allais dire, et du coup, peut-être que cette personne, elle est en train de partager ce commentaire, etc., juste parce qu'elle a des émotions en ce moment-là qui prennent le dessus et qui créent ces actions-là, alors que c'est pas non plus forcément... exactement la réponse au problème fonctionnel du podcast qui rejoint
absolument
ce que tu disais.
C'est ça. Effectivement, le fait de toujours se remettre du côté de la personne qui, enfin, d'imaginer qu'est-ce qui peut être l'état d'esprit et l'état émotionnel de la personne qui partage ça, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de bien faire la distinction entre il y a ce que les gens disent ou ce que les gens écrivent, mais ce n'est pas le reflet exact de ce qu'ils pensent. Ouais. Parce qu'on a nous-mêmes du mal à savoir ce qu'on pense, donc faut pas supposer que les gens autour de nous savent mieux retranscrire ce qu'ils pensent. Et donc en fait, on ne peut pas savoir exactement ce que cette personne pense réellement et ce qu'elle écrit. c'est nécessairement teinté de, comme c'est un être humain comme les autres, tout un tas de questionnements, de frustrations, d'impressions de ne pas avancer, d'impressions de ne pas pouvoir, de ne pas avoir accès, de ne pas être aussi bien que les autres, c'est-à-dire ce que tout le monde ressent, enfin voilà, ce sera vrai pour cette personne-là aussi. Néanmoins, comme quand on propose un service ou un produit, on ne propose ce service et ce produit qu'à d'autres êtres humains, il faut quand même prendre en compte, c'est-à-dire si ce qu'on a fait a d'une façon ou d'une autre suscité cette réaction-là chez cette personne, c'est intéressant de se demander quel est le message que nous on a envoyé ou quel est le message qu'on n'a pas réussi à envoyer à cette personne qui fait que d'une façon ou d'une autre, elle s'est sentie pas incluse ou pas prise en compte ou etc. qui peut l'avoir fait réagir comme ça.
Ouais. Et effectivement, c'est hyper intéressant quand on arrive déjà à intégrer ce processus de fonctionnement pour nous et ces outils pour nous. Mais quand en plus on commence à se projeter et à développer l'empathie de, OK, les autres, c'est exactement la même chose qui se passe. Je trouve que ça transforme radicalement notre manière d'être avec les gens. Moi, je le vis, par exemple, dans ma coloc avec mes deux meilleurs amis. Même juste hier soir, on avait une situation où il y a quelqu'un, il y avait des tensions. Et ça s'est incroyablement bien passé parce que justement, on a ces pratiques entre nous de, en fait, du coup, voilà ce que je ressens, voilà ce qui est en train de me traverser, etc. Quand telle chose s'est passée, ça me fait me sentir comme ça. Et en fait, on décortique et c'est plus, c'est de ta faute, t'es une mauvaise personne parce que, mais c'est juste, ah tiens, voilà ce qu'on traverse et ça a donné un moment trop beau. Et du coup, je me dis, si ça arrive, enfin voilà, ça change tout en fait dans notre manière d'échanger avec les gens et avec nos clients quand on est indé, c'est la même chose, quoi. Donc.
Ouais, tout à fait. Et ça demande une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire ça demande d'être prêt à dire, moi, voilà pourquoi est-ce que c'est difficile, voilà comment je me sens, voilà de quoi j'ai peur. Quand tu me dis ça, moi, j'ai peur que j'en sais rien, tu veuilles plus être coloc avec moi. Et ça, en fait, du coup, la plupart d'entre nous qui avons appris à avoir une cuirasse. Et du coup, à faire comme si tout allait bien, comme si on avait tout, comme si on maîtrisait tout, comme si tout était tout le temps parfait. C'est pas forcément naturel de savoir baisser retirer cette armure. Et en fait, c'est là aussi que, moi, ce qui a beaucoup changé en devenant coach et du coup, en ayant accès à la vie intérieure d'une très grande variété de personnes, c'est en fait de voir d'observer l'universalité de ces mécanismes. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se rend compte que c'est vraiment littéralement pareil pour tout le monde, c'est-à-dire ça peut prendre des atours un peu différents, mais globalement, au bout du bout, c'est un peu la même chose pour tout le monde. En fait, ça tranquillise énormément parce qu'au moment où je baisse ma cuirasse, je me dis pas en face, non mais en face, c'est quelqu'un qui est parfait et qui va pas du tout comprendre pourquoi est-ce que moi, je suis imparfaite. Et c'est justement pour ça que les accompagnements qu'on propose, c'est un format de coaching de groupe. C'est parce que c'est dans un format de coaching de groupe, voir d'autres personnes qui parlent des challenges qu'elles rencontrent, de quelle façon est-ce qu'elles les surmontent, quels sont les doutes, quelles sont les craintes, les obstacles qu'elles rencontrent, etc. En fait, ça envoie un message puissant au cerveau de c'est pas juste toi, c'est pas toi qui es cassé de façon unique, irrécupérable, etc. En fait, c'est juste voilà la façon dont ton cerveau fonctionne, voilà la façon dont son cerveau fonctionne. Et en fait, tout ça, c'est juste... C'est juste la machine qu'on a entre les deux oreilles et il faut apprendre à s'en servir. Et donc, c'est immensément tranquillisant, en fait, comme tu as pu le faire. Donc, quand on a la possibilité dans un cercle amical d'avoir ce type de discussion, c'est très utile. Et c'est pour ça qu'on a structuré notre programme de coaching de cette façon-là, c'est parce qu'en fait, ça donne accès à une très grande variété d'obstacles, de difficultés particulières. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas juste nous, dans nos circonstances, qu'on ressent ça. En fait, telle autre personne, dans d'autres circonstances, que moi, je penserais enviable, ou moi, je me dis, mais elle devrait pas avoir du tout de problème de confiance en elle, je m'aperçois qu'en fait, si. Et ça, en fait, ça fait retomber ça fait tout de suite retomber le perfectionnisme, ça fait retomber la crainte, la pression de la performance, etc. Et ça aide, du coup, si on se met pas soi-même la pression pour être parfaite ou parfait, c'est là qu'on a le non-jugement et qu'on peut du coup avoir de la curiosité en se disant quel est le sujet pour moi, quel est l'obstacle et de quoi est-ce que j'ai besoin pour le surmonter.
Ouais, clairement. Et je trouve moi aussi j'ai exactement cette même expérience d'observation de à quel point on est un miroir les uns pour les autres et les unes pour les autres. Dans mon espace communautaire, on a plein d'événements de groupe tout le temps et à chaque fois dans le chat quand il y a quelqu'un qui s'exprime, toutes les autres personnes dans le chat, ah tiens, c'est ouf, moi aussi, ça me fait penser à ça. Enfin voilà, on est constamment en train de rebondir les uns et les unes sur les autres, et je trouve ça trop beau en fait de voir que effectivement il y a cette il y a ces plein d'endroits où on se retrouve, où on se ressemble, où finalement on est les mêmes. Et je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est un des trucs qu'on pourrait en tout cas qui revient dans les critiques du développement personnel, etc., c'est que ça peut être culpabilisant de dire travaille sur toi et si t'as pas ce que tu veux, c'est parce que t'as pas assez bossé sur toi, etc. Alors qu'en fait, c'est, à mon sens, c'est cyclique et on a toujours les mêmes choses qui émergent. Et tu l'as dit au début, à un moment, t'as dit moi, un schéma récurrent pour moi et quelque chose qui revient régulièrement et qui prend différentes formes et différents déguisements. Mais finalement, c'est les mêmes choses et en fait, ça nous habite tout le temps. Ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Marie-Laure Cruchy, qui est une illustratrice super connue, qui fait plein de choses avec plein de boîtes différentes, avec Adobe et ainsi de suite, qui partageait dans l'épisode qu'on a fait que elle arrivait à un stade où le doute sur ses compétences et sa capacité à se réinventer réémergeait, alors que elle a des choses que tellement d'autres illustrateurs ou illustratrices rêveraient d'avoir, mais elle continue d'avoir des doutes sur ses compétences. Et je pense que c'est infini, quoi. Ça revient toujours.
Donc, ouais. C'est ça. Et en fait, l'encouragement que je veux apporter aux personnes qui sont peut-être au début de leur démarche et qui se disent « Ah là là, non mais attends, je pensais que j'en suis débarrassée, que ça durerait un an, etc. » C'est qu'en fait, heureusement, comme tout dans la vie, en fait, il y a des sujets qui sont récurrents, mais en fait, comme on les a déjà traversés, qu'on les a déjà surmontés, qu'on a déjà vu une fois comment est-ce que ça pouvait passer, bah, en fait, c'est... En fait, je vais prendre l'exemple de voilà, j'ai deux enfants. Le premier enfant, tout était nouveau et donc tout me paraissait une catastrophe, hyper important, hyper grave, hyper difficile et tout. Le deuxième enfant, techniquement c'était pareil. Enfin, je veux dire factuellement c'était pareil, mais moi, comme j'avais déjà vécu une fois, j'étais riche de cette expérience-là. Je savais mieux résoudre les mêmes problèmes, etc. La deuxième fois. Donc c'est pareil avec tous ces sujets. En fait, c'est une spirale ascendante en réalité, c'est-à-dire on repasse au même endroit mais on est plus haut. Et donc en fait on est riche de la sagesse de ce qu'on a appris la fois précédente, à condition effectivement d'avoir pris le temps de se poser ces questions-là sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, qu'est-ce qui fait que ça a marché et comment est-ce que je peux faire pour capitaliser là-dessus, et ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et de quoi est-ce que j'aurais besoin pour que ça marche mieux à l'avenir. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une pratique à la fois dans sa vie émotionnelle, dans sa vie intérieure comme dans sa vie professionnelle. Avoir des points réguliers de bilan avec soi-même pour pouvoir s'assurer qu'on retire tout le jus des expériences.
C'est vraiment,
ouais, c'est ça. Qu'on presse bien toutes les oranges de ces expériences. C'est très important. Alors même qu'on a tendance, généralement, surtout, je pense, quand on a ce drive un peu de freelance, d'être tout le temps indépendant, tout le temps le projet suivant, l'opportunité suivante, etc. C'est important de ne pas rater ce coche-là parce que c'est là-dessus qu'on stabilise sa croissance, en fait, qu'on apprend, qu'on ancre les enseignements et qu'on aborde la suite encore plus.
Et je pense que le fait que ce soit mis de côté trop souvent, ça vient aussi de cette espèce d'injonction à la surperformance qui traîne de part et d'autre dans les milieux entrepreneuriaux à grands coups de toutes les choses qui sont très visibles, c'est les grandes réussites et machin, et on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne. Et du coup, justement, dans mon espace communautaire, tous les mois, j'ai un format de meet-up où l'objectif, c'est on fait le point sur le mois qui vient de se terminer et on utilise les apprentissages pour préparer le mois d'après. Et ça fait une sorte de rituel. Et je pense que ça fait vraiment du bien de faire ça parce que du coup, c'est l'opportunité pour moi aussi de le régulariser dans ma propre pratique. Et je trouve que ça fait une énorme différence, justement, comme tu disais, pour tirer les apprentissages de tout.
Ouais.
Et j'ai une autre question que je voudrais poser, du coup, dans cette intention d'extraire le meilleur de ta propre expérience et de tous les outils que toi tu as appris à maîtriser et partager, sous un autre angle que celle d'avant, c'est imaginons que je te donne là le pouvoir de transmission ultime, où tu peux claquer des doigts et tous les auditeurs et toutes les personnes, toutes les auditrices de ce podcast peuvent intégrer une pratique ou une notion ou un outil comme ça, par magie, tout d'un coup, ça y est, elles le maîtrisent. Ce serait quoi que tu voudrais leur transmettre, si ce n'est l'indépendance émotionnelle dont tu as parlé avant ?
Alors, je vais te faire une réponse en deux parties. La première réponse, c'est que je pense que ce serait les privés de l'expérience d'apprentissage qui, à mon sens, C'est-à-dire, il y a l'apprentissage lui-même et puis il y a la méta-compétence qui est de s'être proposé d'apprendre quelque chose qui est difficile et tout ça. Donc, en fait, moi, je ne proposerais pas. Tu vois, c'est comme si on me disait, il y a Eckhart Tolle, tu vois, le
il veut t'éveiller, il te touche le tête.
Qui arrive et qui t'apporte d'un coup le enlightenment. Donc, genre, t'es d'un coup illuminé. Est-ce que tu prendrais ou est-ce que tu prendrais pas? À mon sens, moi, je te suggérerais de ne pas prendre.
J'adore.
Parce qu'en fait, le chemin pour y arriver, il fait autant partie de la saveur et de la valeur que la destination. Néanmoins, il y a une compétence qui, à mon sens, enfin qui est une compétence qu'on s'attache beaucoup à transmettre aux personnes qu'on accompagne, c'est notre capacité, et ça c'est un super pouvoir en soi, c'est notre capacité à ressentir toutes les émotions. C'est-à-dire notre velléité finalement à ressentir le spectre total des émotions dans ce qu'il a d'agréable comme dans ce qu'il a de désagréable. Et je pense fondamentalement que si on était tous, si on se sentait tous et toutes vraiment capables de faire face, de ressentir et d'accueillir toutes les émotions, on serait virtuellement sans peur. C'est-à-dire qu'il resterait la peur de la douleur physique, mais qui, heureusement pour la plupart d'entre nous, se présente peu dans nos vies. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous fait peur, en réalité, ce qui nous fait peur, c'est toujours la peur, c'est toujours une émotion. C'est toujours une émotion qu'on pense qu'on va ressentir s'il se passe cette chose ou cette autre chose. Et en fait, et ça, c'est quelque chose que les personnes qui nous écoutent peuvent examiner et que j'utilise souvent pour moi-même et pour nos clients et nos clientes. C'est quand on a une réticence à quelque chose ou quand on a peur de quelque chose, c'est au lieu de fuir et de se dire non, mais on va essayer que ça se produise pas, etc., c'est au contraire d'aller dans le futur au moment où cette chose se produit. Et en fait, qu'est-ce qui me fait si peur? C'est-à-dire, comment est-ce que je me sentirais si ça se produisait? Et en fait, l'idée, c'est dans le confort de sa chambre ou de son salon où il s'est pas encore passé ça, de se proposer de ressentir maintenant l'émotion qu'on pense qu'on ressentirait si on avait cette mauvaise nouvelle, si on avait ce truc qui tombe à l'eau, etc. Et de se proposer juste là, alors qu'il se passe rien, de ressentir vraiment cette émotion. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être on va pleurer, peut-être on va, voilà, c'est pas forcément agréable, mais parfois ça fait sortir des larmes. Et de se proposer de pratiquer, en fait, le fait de ressentir cette émotion. Et ça émousse la peur, parce qu'on se dit, en fait, si le pire qui se passe, c'est cette émotion-là que je viens juste de ressentir et qui, en réalité, le pire qui s'est passé, c'est que j'ai un peu pleuré et que, d'ailleurs, je me sens mieux après. Ben, en fait, allons-y. Allons-y, parce que le pire qui puisse se passer, c'est une émotion.
Ouais. C'est fou que tu parles de ça, parce que je me souviens exactement du moment où j'ai écouté l'épisode de podcast où tu parles de cet exercice-là.
Oui, c'est vrai, d'accord. Okay.
Clairement. Et c'est fou parce que, du coup, ça me ramène plein de souvenirs et justement, ce que j'ai pratiqué par la suite. Et je te rejoins à fond, hyper puissant cet exercice. Et ça, tu vois, moi j'ai l'impression aussi, je reviens sur ce que je disais sur la mort de mon père, que d'avoir vécu ça, en fait, ça teinte complètement différemment toutes les autres expériences que j'ai. Parce que j'ai l'impression que j'ai vécu tellement fort des choses qu'on étiqueterait de négatives ou de pas souhaitables et qu'on n'a pas envie de vivre, que tout le reste est du coup sur un spectre plus large. J'ai vécu tel niveau de douleur, entre guillemets. Ok, ce niveau de douleur-là, clairement, c'est rien. Viens, on dépasse et on avance. Et du coup, je trouve que c'est fascinant ce que tu proposes, parce que je souhaite à personne de devoir vivre les pires expériences de leur vie pour ensuite avoir accès à, le spectre, il est large maintenant, c'est cool. Mais de l'expérimenter comme tu le proposes là avec ce genre d'exercice, c'est fou, en fait. Oui. Ça élargit.
C'est ça. Et en fait, pour celles et ceux qui aiment les sensations fortes, on peut aussi se poser la question, quelle est l'émotion la pire? C'est-à-dire, quelle est l'émotion qu'on redoute le plus? Et donc ça, moi, j'ai fait cet exercice-là une fois après être allée voir le film Joker au cinéma, où en fait, il a fallu que je sorte avant la fin du film parce que je trouvais ça trop horrible. En fait, ça m'arrive rarement, mais là, je suis sortie. Et en fait, j'ai réfléchi après. Et en fait, je me suis rendu compte que l'émotion la pire pour moi, c'est l'émotion d'horreur. Donc c'est vraiment, c'est cette émotion de genre, il y a quelque chose de vraiment horrible et l'horreur de voir, voilà, quelque chose d'horrible. Et en fait, je me suis dit, ça c'est important pour moi à savoir, parce que je sais que ça c'est le pire que je puisse ressentir. Et donc ma mission, si je ne veux pas laisser cette émotion-là me diriger ou me faire peur, c'est en fait de l'apprivoiser, c'est-à-dire de mieux la connaître. Donc je ne vais pas la susciter exprès avec des choses extérieures, mais de mieux connaître cette émotion, ce qu'elle fait dans mon corps, etc. Et donc j'ai fait comme ça l'exercice de créer pour moi-même l'horreur. C'était assez intense. Mais en fait, du coup, ça s'est évanoui, cette peur que j'avais. Et donc, pour chacun et chacune de celles et les personnes qui nous écoutent, vous demandez quelle est pour vous la pire émotion que vous puissiez ressentir et quelle est la relation que vous voulez créer ou développer avec cette émotion pour que ce soit plus quelque chose que vous redoutez, que ce soit plus le loup qui est caché quelque part dans votre chambre, mais que vous vous disiez, bah, si elle survient, je sais la ressentir.
Ouais, et comme tu disais tout à l'heure, ces émotions, ce ne sont pas des problèmes à résoudre, mais c'est des parts de nous à accueillir et avec lesquelles faire ami, faire copine, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Et j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure. C'était, je passe du temps à essayer de réfléchir à quelles questions j'ai envie de poser parce que j'imagine que tu partages ça. Pour moi, les questions, c'est l'outil d'accompagnement le plus puissant qui existe plutôt que les conseils. et du coup, je passe pas mal de temps à réfléchir à mes questions. Mais je m'attendais pas du tout à ta réponse et du coup je suis incroyablement satisfait que t'aies apporté ce truc de dire mais en fait je voudrais rien transmettre comme ça automatiquement parce que c'est le voyage qui est important quoi. Donc merci clairement, trop bien la réponse.
C'est-à-dire en fait ce que je veux préciser c'est que je pense qu'on a tous besoin de guides. On a tous besoin, et en fait, j'aime beaucoup utiliser avec nos clients et nos clientes cette idée du parcours du héros ou du parcours de l'héroïne. Donc en fait, de les remettre dans le rôle principal de leur propre vie, et en fait de se dire le héros ou l'héroïne dans son parcours et dans sa quête a besoin de guides à des moments précis de son parcours, besoin de guides qui lui enseignent quelque chose, qui l'aident, qui lui apporte le soutien ou qui l'aide à accéder aux ressources qui sont les siennes mais auxquelles il ou elle n'avait plus accès. Mais c'est tout à fait différent d'avoir un guide qui vient et qui fait le truc à sa place. Un guide, il aide, il facilite, il encourage, il enseigne, il transmet. Mais c'est quand même le héros ou l'héroïne qui fait le gros du boulot d'essayer d'apprivoiser le truc, de l'intégrer, d'essayer, de rater, de recommencer. Et en fait, c'est de ça que je ne voudrais pas priver les gens. Ouais. C'est-à-dire transmettre les outils, ça, je le fais au quotidien à travers le podcast et dans notre programme de coaching. Mais je ne voudrais pas, si je pouvais, par transmission de pensée, faire que ces compétences-là soient déjà acquises. En fait, je trouve que ça les priverait du processus d'intégration qui est finalement, c'est vraiment ça qu'on veut transmettre. C'est apprendre à apprendre, c'est savoir apprendre, savoir acquérir de nouvelles compétences. Il n'y a pas plus important que ça, surtout quand on est, enfin, je pense, dans n'importe quelle vie professionnelle, parce que les métiers vont continuer à évoluer, les technologies vont continuer à évoluer, les usages vont continuer à évoluer. Et donc, ce qu'on veut favoriser au maximum, c'est cette agilité de s'adapter, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire. Il me semble que c'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne aux enfants et aux jeunes pendant leur scolarité.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et j'allais dire, à mon sens, c'est ça qui nous rend réellement indépendants, dans le sens pas dépendants de quelque chose, mais on a cette liberté finalement de se dire ok, ben peu importe ce qui m'arrive, je suis capable de rebondir, d'apprendre, d'accueillir ce qui se passe pour moi, même si c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'ai jamais rencontré avant, et d'y faire face et de développer les compétences appétences dont j'ai besoin pour avancer. Donc clairement je te rejoins à fond là-dessus.
Et la bonne nouvelle, c'est que moi je crois fondamentalement, et c'est vraiment au cœur de notre approche, que l'être humain ne s'épanouit que dans le mouvement et la croissance. C'est-à-dire, on est comme une pâquerette. C'est-à-dire que la pâquerette, quand elle arrête de pousser, elle meurt. Et en fait, c'est en ça que, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ah oui, mais ces technologies qui changent tout le temps, ces usages, les besoins des gens changent tout le temps et tout. En fait, ça peut faire peur. Et en fait, l'idée, c'est de retourner ça en se disant, non, mais c'est justement merveilleux que ça change tout le temps parce que ça nécessite que nous, on continue à affiner nos compétences, nos pratiques, à évoluer, à apprendre de nouvelles choses, etc. Et en fait, ça, c'est un ingrédient indispensable d'une vie épanouie et accomplie. Et quand on arrête d'apprendre, quand on arrête d'apprendre, quand on arrête d'évoluer, quand on arrête de se frotter à des choses qu'on ne connaît pas, bah là c'est le déclin. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens qui prennent leur retraite s'aperçoivent qu'ils sont pas du tout aussi heureux que quand ils travaillaient parce qu'en fait il y a plus d'apprentissage, il y a plus de sauf les gens qui démarrent de nouveaux projets bien sûr, mais le fait de rester sur place, le statu quo, la zone de confort, en réalité on décline.
Je te rejoins à fond et ça ancre encore plus l'importance de se dire c'est le voyage qui est important, c'est que comme on est toujours dans cet élan, moi j'aime bien dire il y a personne si on prenait une capture d'écran de la planète, personne n'est statique, on est toutes et tous en train de voguer vers quelque chose, des aspirations, des envies, des désirs, des projets. Et en fait, comme ça ne s'arrête jamais et que même quand on aura fini quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Si on profite pas du chemin, en fait, on profite jamais parce que à chaque destination, il y en a une nouvelle qui se présente et ça ancre d'autant plus.
Oui, c'est ça.
Ce que tu disais là-dessus.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps à intégrer parce que je pense que selon là où on en est de sa carrière ou de sa pratique professionnelle, il y a une partie de nous, en tout cas c'était mon cas, qui commence par se dire « Non mais quand même, d'accord, le voyage est plus important que la destination, mais je pense quand même que cette destination-là, ce sera quand même… » Et donc en fait, je pense qu'il faut avoir fait l'expérience de deux ou trois occasions dans lesquelles on s'est dit « Quand j'en serai là, alors je pourrai me détendre, alors je ne douterai plus, alors je n'aurai plus peur. » Et qu'en réalité, c'est pas ça qui se passe. Deux ou trois répétitions de ce schéma pour commencer à dire « Ah ouais, en fait, il me disait ça et effectivement, ils avaient raison. »
Ouais, ben, ça me fait un très bon lien et je te propose que ce soit ce sur quoi on termine avant les questions rituelles de fin, mais avec une autre question que je voulais te poser qui vient appuyer un peu sur ce qu'on disait là de… notre monde intérieur teinte notre monde extérieur et c'est dans ce sens que ça se passe, etc. Est-ce que tu viens de dire là, oui, c'est bien beau tout ça, sauf dans certains cas où on se dit, oui, bon, ok, bravo. Et j'en ai un très précis sur lequel je serais curieux de t'entendre. Tu vois, pour les personnes qui sont au tout début de l'aventure et qui ont l'impression un peu de lutter, d'être en combat, peut-être que leurs allocations chômage vont se terminer bientôt ou ce genre de choses, et on n'a pas encore la stabilité financière de « Ok, ça tourne bien, j'ai réussi à avoir la stabilité de revenus de clients que je veux. » Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là par rapport à ce qu'on vient de se dire là sur… il y a tout un… ça part de l'intérieur et on peut accueillir tout ça et ainsi de suite, alors qu'effectivement, elles se disent « Non, ça ira bien quand j'aurai la stabilité, quoi. »
Alors, je pense que ce qui se passe dans ce phénomène que tu décris, c'est qu'il y a quand même dans ces apprentissages, il y a quand même un effet d'entraînement et un effet d'élan qui augmente. C'est-à-dire que les expériences nourrissent les expériences, les enseignements nourrissent les enseignements, les expériences d'ailleurs réussies ou ratées. Et donc, il y a quand même quelque chose où, quand on démarre de rien, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut construire ex nihilo. Et en fait, ça donne un peu l'impression, en fait, c'est un peu au début, il faut quand même un peu pousser la pierre en haut de la montagne. Et donc, dans un premier temps, il y a beaucoup de choses à construire. Il faut avoir un site, il faut avoir décidé d'une offre, il faut décider d'une tarification, il faut éventuellement trouver des prestats. Donc, en fait, il y a tout ça qu'il faut construire. Donc, on pousse la pierre jusqu'en haut de la montagne et passer le col de la montagne. Là, d'un coup, on s'aperçoit que la pierre, elle commence à rouler. Et au bout d'un moment, et ça fait partie aussi d'un truc qui me passionne, qui est le fait de mettre en place des systèmes, qui est pour moi quelque chose de très important pour quand on a une activité indépendante ou chef une activité de chef d'entreprise, c'est le fait de systématiser autant que possible ce qu'on fait, comment on le fait et quelles sont un peu nos méthodes, parce que c'est ça qui crée justement cet élan. C'est-à-dire, plus on systématise, plus la boule, elle commence à rouler toute seule sans qu'on ait perpétuellement à devoir la pousser. Et donc, il y a effectivement une phase de construction qui est à la fois intérieure et extérieure, c'est-à-dire faut construire à l'extérieur un certain nombre d'éléments de base pour pratiquer son activité, mais il y a aussi la construction de l'identité intérieure qui est je ne suis plus salarié ou je ne suis plus étudiant ou étudiante, mais je suis une nouvelle version de moi qui, voilà. Et ça, cette construction intérieure, elle se fait pas toute seule. Et effectivement, c'est inconfortable comme tous les changements d'identité. Mais l'idée, c'est de se dire la lumière au bout du tunnel, c'est le parcours de tout un tas d'autres indépendants ou chefs d'entreprise qui sont passés par là avant nous et qui n'ont pas abandonné et qui peuvent dire qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a la nouvelle identité, une fois qu'on a les systèmes en place, une fois qu'on a toutes ces choses en place, là, on commence à avoir un peu plus d'aisance, un peu plus de confort, un peu plus de confiance, un petit peu moins de doute. Et là, ça commence à rouler un peu plus.
Du coup, ce que j'entends, c'est que tu dis que pour mieux vivre cette phase où on a l'impression de pousser et que voilà, tout ce qu'on prend, c'est plus de poids et que ça passe pas le col encore, c'est déjà de se réancrer dans le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, c'est normal et c'est le chemin. Et du coup, si c'est possible pour d'autres, c'est possible pour moi aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu partagerais qui pourraient faire que les gens vivent mieux cette phase-là, par exemple, où on a l'impression de toujours remettre la main à la pâte, mais sans les résultats qui vont avec?
Oui, je pense que ça se joue beaucoup dans le discours intérieur pendant qu'on fait, c'est-à-dire notamment parce qu'on parle de penser à d'autres entrepreneurs ou d'autres indépendants qui sont passés par là avant nous et tout ça, notamment regarder en particulier des schémas de comparaison, c'est-à-dire ah oui, alors une telle, elle a commencé au même moment que moi et elle en est déjà là, elle a plus de followers, elle a plus de chiffres, elle a plus de machin, elle a plus de ceci, donc les phénomènes de comparaison, et en fait s'assurer simplement que pendant qu'on est en train de pousser la pierre en haut de la montagne, qu'on a un discours intérieur d'encouragement, de confiance et de complicité autant qu'on peut. Parce que moi, ce que je sais, c'est que si je suis en train de pousser une pierre en haut de la montagne et qu'il y a à côté de moi quelqu'un qui dit franchement, tu vas pas très vite et puis t'es sûr que tu vas y arriver et puis t'as vu, elle est déjà en haut de la montagne. Honnêtement, ça va pas m'aider à pousser la pierre. Donc, je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de valoriser et d'encourager les efforts même avant qu'ils aient produit des résultats qui sont flamboyants ou dont on peut parler le dimanche midi en famille et que ça impressionne tout le monde.
Ce qui rejoint à ce que tu disais au tout début de notre échange de la qualité de cette relation de soi à soi qui est hyper importante.
Qui est centrale dans tout, ouais.
Trop bien. Je te propose du coup qu'on arrive sur les questions de rituel de fin d'épisode qui sont au nombre de 5 pour la saison 5. J'en ai rajouté une. Et la première, c'est si tu étais face à Clotilde, c'est son tout premier jour en tant qu'indépendante. Je te laisse choisir si c'est indépendante numéro 1 avec le blog cuisine ou indépendante numéro 2 avec l'activité de coaching. Mais c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu pouvais te parler à cette époque-là, avec tout ce que tu as acquis depuis?
Le conseil que je me donnerais, c'est de m'appuyer plus vite et plus résolument sur ce qui constitue mes forces et de pas essayer, enfin de pas les minimiser ou de pas essayer d'en mobiliser d'autres qui ne sont pas les miennes. En fait, je te donne un exemple précis. Moi, je suis très structurée. Moi, je suis ingénieure dans l'âme, donc je suis très structurée. Je réfléchis vite, j'avance vite, je parle vite, etc. Et en fait, j'ai longtemps eu l'impression que peut-être j'étais un peu trop intense, que j'étais un peu trop rigide, un peu trop, etc. Et en fait, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir l'air plus cool que je ne l'étais, ce qui fait beaucoup écho à des expériences de collège. Mais voilà, je suis un peu nerd de mon sujet. Je lis énormément de livres là-dessus. J'ai envie, voilà, quand je me passionne pour un truc, je parle hyper vite, etc. Et il y avait une partie de moi qui était très occupée à essayer de masquer ça et de peut-être me présenter sous un jour qui était un peu différent. Et ça, en fait, c'est une perte de temps énorme parce que je peux pas être une autre personne. Alors que si justement je m'appuie là-dessus et que je me dis bah moi c'est ça, mais voilà les caractéristiques qui me définissent pour l'instant et c'est en ça que je suis forte et c'est ça qui est bien chez moi, bah en fait c'est une libération personnelle énorme et du coup on a la possibilité de s'appuyer sur ces forces-là d'une façon qui n'est pas disponible quand on est occupé à les masquer. Donc je me donnerai l'autorisation plutôt de jouer avec mes forces plutôt que d'essayer d'en mobiliser d'autres qui ne sont pas les miennes.
Trop bien. Et est-ce que, petite question, parce que moi, c'est l'intuition que j'ai, mais est-ce que tu as l'impression que l'envie de mobiliser ces autres forces, ça venait de messages de l'extérieur ou de formes d'injonction de « tu devrais faire comme ça, c'est mieux, voilà comment on devrait faire, patati patata » ?
Alors moi je pense que c'était vraiment cette idée de non-acceptabilité de comment je suis brute de fonderie. Et en fait ce que je veux bien préciser c'est que je veux pas avoir l'air de dire en fait vous êtes comme vous êtes et puis les gens ont qu'à vous prendre comme vous êtes et vous avez pas à faire d'efforts particuliers. Je parle pas dans le relationnel mais je parle dans le voilà par exemple donc maintenant j'ai une équipe, on est une entreprise de 8 personnes maintenant et en fait bah, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, d'encadrer des gens, de manager une équipe, d'inspirer autour d'une mission, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire et je me suis aperçue que dans un premier temps en fait j'étais très occupée à regarder d'autres managers ou d'autres personnes qui étaient et de me dire comment est-ce que eux conduisent leurs réunions. Et je vais essayer de faire comme eux. Et en fait, moi, ce qui me vient naturellement, ça doit pas être vraiment ça parce que eux, c'est des professionnels et moi, je suis débutante là-dedans. Et en fait, du coup, il a vraiment fallu que je m'autorise à faire à ma façon, à faire de la façon qui, moi, me semble juste et qui me ressemble. Et je précise qu'il y a évidemment le feedback après à intégrer qui est est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça donne de bons résultats? Est-ce que mon équipe est contente? Est-ce que chacun et chacune a la place de dire ce qu'elle pense, etc. Enfin, donc c'est pas, voilà, je suis comme ça et on me changera pas. Mais c'est, ouais. Je vais commencer par faire ce qui, moi, me paraît le plus juste et le plus naturel pour moi, plutôt que de démarrer tout de suite en essayant de faire une version, en essayant d'imiter quelqu'un d'autre, voilà, une espèce de version imaginaire que j'avais dans la tête d'une manager et d'une chef d'entreprise.
Trop bien.
Merci. Et on s'amuse beaucoup plus.
Ouais, clairement.
Je veux dire, évidemment, ça, mais sans surprise, ça marche beaucoup mieux quand je suis, quand je fais vraiment, enfin, quand je suis vraiment moi, parce que ça leur donne évidemment l'autorisation à elles d'être vraiment
elles. Pareil. Ouais, complètement. Et j'allais dire, ouais, j'imagine que t'es aussi plus créatif, plus productif. Enfin voilà, ça amplifie toutes les choses qu'on recherche parce qu'on construit sur les fondations de ce qui nous énergise, ce qui nous porte, plutôt que d'essayer de les réfréner parce que c'est pas normal, on devrait pas être comme ça quoi.
Exactement.
Cool. La question d'après, c'est si on regarde tout ton parcours, à ton sens, c'est quoi la plus grosse difficulté à laquelle t'as fait face dans ta vie d'indépendante et comment t'as fait pour dépasser cette difficulté?
Alors, ça fait un petit peu écho à des choses qu'on a déjà vues, mais je pense que la plus grosse difficulté que j'ai eue à surmonter, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le fait en fait d'être pendant longtemps, mais en fait c'est marrant parce que c'est exactement ce que je viens de dire, l'impression que genre en fait je sais pas vraiment ce que je fais, c'est-à-dire je suis en train d'inventer au fur et à mesure, mais il doit y avoir à l'extérieur de moi des gens qui savent comment faire, des gens qui sont compétents et qui peut-être me regardent, me jugent et vont me dénoncer en disant non mais vous savez que elle en fait elle fait pas du tout ce qu'elle fait et que c'est la première fois qu'elle écrit un livre et que c'est la première fois qu'elle embauche des gens et que c'est la première fois qu'elle et donc en fait ça a longtemps mis un couvercle en fait sur le plaisir que je pouvais prendre à faire ce que je faisais. Parce que justement, je me disais, est-ce que t'es vraiment, en fait, c'est toujours un peu cette crainte d'être découvert ou d'être, et cette crainte aussi que ce qui a marché jusqu'ici, du jour au lendemain, ne fonctionne plus parce qu'en fait, t'es un imposteur et le jour où on va s'apercevoir que t'es un imposteur, bah, tu perdras tout.
Ouais. Moi, j'ai une pensée qui me soutient beaucoup là-dessus parce que je traverse aussi, cette phase de, OK, je vais plus être seul, je commence à systémiser beaucoup plus et ainsi de suite et je suis en mode, wow. C'est nouveau, c'est un change. Je mue de mon ancienne peau pour en mettre une nouvelle. Et une pensée que j'aime beaucoup sur ce truc du syndrome de l'imposteur, c'est ça me vient d'un livre qui s'appelle L'âme délivrée. Et je sais pas si tu l'as pas lu encore, mais je te le recommande vraiment si tu l'as pas lu encore. Et en gros, il dit qu'en fait, on est de revenir à la pensée qu'on est un morceau de poussière sur un morceau de poussière au milieu d'une infinité de rien. Et du coup, moi, ça me ramène à chaque fois à me dire, en fait, aucun d'entre nous ne sait ce qu'il fout ici. Personne n'a rien compris, en fait. Et du coup, si personne n'a rien compris et on est tous en train de chercher, de tâtonner dans le noir à rien comprendre parce qu'on est un petit morceau de poussière, en fait, c'est pas grave.
C'est beau, ouais, tout à fait. Coup, moi, ça peut déclencher soit une crise d'angoisse, soit de l'apaisement. Ça dépend.
Moi, c'est de l'apaisement pour le coup. J'espère que je vais pas donner de crise d'angoisse aux gens qui nous écoutent. Ok, question suivante, c'est la question spéciale saison 5. Quel est ton objectif professionnel du moment?
Alors, mon objectif professionnel du moment, c'est vraiment, en fait, moi, la phase à laquelle j'en suis de mon activité professionnelle, c'est donc ce programme de coaching qui s'appelle Change ma vie, mode d'emploi, dont les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs à l'heure où cet épisode est diffusé. Donc, on a les informations sur changemavie.com/coaching. Et donc, en fait, mon objectif à travers ce programme, c'est de construire le parcours le plus précis et le plus essentiel pour accélérer la poursuite des objectifs des personnes qu'on accompagne. Donc, développer leur vision, développer leur clarté et développer leur élan pour qu'en fait, entre ces personnes-là et la vie extraordinaire à laquelle elles aspirent, qu'il y ait le moins de, que ce soit le plus fluide et qu'il y ait le moins d'obstacles possible, et surtout qu'elles y prennent le plus de plaisir, parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est, à mon sens, central et qui est une des valeurs de notre entreprise. C'est le plaisir. C'est comment est-ce que je fais pour que, à tout moment du chemin, j'y trouve une forme de plaisir. Et donc c'est vraiment mon objectif dans ma pratique professionnelle, c'est de rendre ce parcours le plus facile à suivre, le plus essentiel, et vraiment apporter, parce que les gens ont pas besoin de tonnes de trucs, en fait. C'est au contraire, c'est dans l'épure et dans l'essence qu'on apporte le plus de valeur. Donc essayer que ce parcours-là il soit le plus efficace et apporter aux personnes qu'on accompagne l'aide la plus fine et la plus juste qui les emmène plus loin. Donc ça c'est ce qu'on propose à nos clients et nos clientes. Et ce qui me passionne en ce moment en parallèle, c'est justement le développement de cette équipe, parce que je suis passée en pas beaucoup de temps de juste moi avec une assistante à une équipe de 8 personnes. Ouais. Et que ça, en fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est ce qu'on se propose de faire pour nos clients et nos clientes. En fait, moi, je me propose de le faire pour mon équipe. Et en fait, c'est quelque chose que je suis très fière qu'on ait créé chez Change Ma Vie. C'est qu'en fait, je pense vraiment qu'on incarne dans notre équipe exactement les messages, exactement ce qu'on veut transmettre à nos clients et nos clientes, et qu'on vit vraiment notre approche, nos valeurs et notre méthodologie au sein de l'équipe. Et en fait, du coup, cet alignement qui est vraiment, enfin que je vis comme vraiment extraordinaire, entre comment on est entre nous dans l'équipe, comment est-ce qu'on pense à nos clients et nos clientes, comment est-ce qu'on s'en occupe et ce qu'on veut favoriser dans leur vie. En fait, ça pour moi c'est de la dynamite, et je suis très contente qu'on ait de continuer à développer cette dynamique là.
Ce que j'entends du coup, c'est qu'il y a t'as un réel objectif pédagogique, en fait, de réussir à encapsuler toutes ces choses que depuis des années, voilà, il y a tout l'écosystème de plein de choses incroyables, mais de l'encapsuler dans c'est quoi la voix, en fait, qui transmet le mieux ça, et que tu le fais autant avec ton équipe que les clients. Et la question qui suit, du coup, qui se base sur le fait que on a tous et toutes des objectifs, des aspirations, mais qui viennent de quelque part. Tu vois, ça émerge d'un truc à l'intérieur de nous, et ma question, c'est d'où ça vient, cet objectif pour toi? Pourquoi c'est devenu un objectif maintenant, ce que tu viens de nous partager?
Alors, moi, ce qui m'a toujours animée, en fait, j'ai une vraie aspiration à, enfin, ce qu'en anglais on appelle legacy. Donc, en fait, c'est vraiment moi, ce qui me motive depuis très longtemps, c'est de vivre ma vie de telle sorte que le jour où je meurs, qu'il y ait, alors pas tant un maximum de gens, mais qu'il y ait des gens qui puissent se dire, bah, dans ma vie, mes interactions avec elle, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a proposé, etc. Ça a eu un impact positif sur ma vie, et ma vie ne serait pas la même si elle n'avait pas existé. Donc, de façon ultra mineure, comme de façon majeure. Donc, je pense à mes enfants, par exemple. Là, évidemment, j'espère que le jour où on fera la cérémonie à ma mémoire, ils pourront dire, voilà, ma vie est meilleure parce que Clotilde était ma mère.
Merci de m'avoir cuisiné des coquillettes, maman.
Pour chacun et chacune de nos clientes, pour chaque personne qui écoute même un épisode de Change Ma Vie, en fait, ça me motive énormément de me dire, je veux qu'au quotidien, en fait, d'une façon ou d'une autre, ce qui irradie de moi, ce que je fais, a un impact positif, et en fait que je laisse, alors pas chaque personne mieux que je ne l'ai trouvé, parce qu'il y a des fois où dans la queue de la boulangerie, il y a quelqu'un avec qui j'ai un accrochage, mais voilà, de me dire globalement, entre le monde sans que j'ai existé et le monde dans lequel j'ai existé, bah, qu'on voit une différence, et que cette différence, elle soit positive. Alors, je ne sais pas si ça fait mégalo de dire ça, mais je pense que je le fais avec beaucoup de cœur, et je devine que les personnes qui nous écoutent, en fait, chacune à leur façon, dans leur dans ce qu'elles se sont proposées de développer comme compétences, etc. À mon sens, on est tous mus. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être salarié. Donc en fait, je pense qu'on est tous mus par l'envie d'impacter positivement les personnes avec qui on travaille, d'impacter positivement les personnes avec qui on crée, on produit, etc. Et en fait, pour moi, revenir toujours à ça, en fait, c'est ça qui permet aussi d'arbitrer et de se dire, est-ce que je reste sur les rails de la mission que je me suis donnée? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu un impact positif sur mon entourage et sur les gens avec qui je travaille? Ou est-ce que mon impact, là, c'était pas, le solde net était peut-être pas positif, et à ce moment-là, comment est-ce que j'ajuste demain?
Ouais.
Et ça, je pense que si on était tous et toutes inspirés et mus par ça, je pense que la société et peut-être la planète s'en porterait un peu mieux.
Je suis 100% d'accord. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, moi aussi, dans ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie d'accompagner les gens que j'accompagne à ancrer dans leur pratique de leur activité et de leur indépendance. C'est le fait que, oui, on a cette indépendance, donc on est une personne parmi plein d'autres avec notre unicité, mais il y a aussi une forme d'interdépendance. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, il fonctionne parce qu'on s'apporte tous et toutes mutuellement les uns les autres et on a chacun un rôle à jouer dans le grand tout. Et que donc, quand on se met dans une posture de « j'ai envie de prendre soin et nourrir cette interdépendance » et donc je me mets dans une posture de « au service de » et en français, je trouve que ça sonne mal, je sais pas pourquoi, en anglais, je trouve que ça sonne mieux de « to serve » que être au service d'eux.
Oui.
Mais quand on se met dans cette posture, est-ce que j'entends que toi te nourris et genre c'est hyper important pour moi et moi c'est pareil, je suis convaincu que tu touches beaucoup plus à ton pouvoir de transformation autant personnel que pour les autres et que du coup t'as accès à tellement plus de ressources en toi parce que justement t'es connecté à quelque chose de plus grand qui dépasse juste ta personne à toi en fait.
C'est ça. Et dans le métier que moi je pratique, le métier de coach, en fait, ça fait partie de notre mission aussi de déverrouiller ça chez chacune des personnes qu'on accompagne. Parce qu'en fait, il y a cette mauvaise compréhension du développement personnel qui est parfois dont on parle dans la presse, qui serait une démarche nombriliste de mon petit bonheur personnel alors que la planète flambe, tout ça. Et en fait, pour moi, ça repose sur une incompréhension fondamentale qui est de dire c'est quand les gens, en fait, il faut d'abord aider les gens à se sentir bien avec eux-mêmes dans les problèmes très pressants et très quotidiens de leur vie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les affranchir de ça, parce que quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui est bien avec lui-même, c'est quelqu'un qui est bien avec les autres, qui partage largement. En fait, je pense sincèrement qu'on est tous par défaut généreux, on est tous par défaut à avoir envie de partager, d'aider, ça fait partie des moteurs de l'être humain. Mais celles et ceux qui ne le font pas, c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, c'est que ce sont des personnes qui sont encore emprisonnées dans une lutte ou une souffrance du quotidien, et qu'en fait il faut commencer par leur donner des outils pour s'affranchir et s'alléger de ça. Et en fait, quelqu'un qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui fait vraiment qui a un effet beaucoup plus bénéfique sur son entourage, sur la société et sur la planète en général.
Ouais, et on se met naturellement à contribuer aux autres. Parce que justement, on a toutes les ressources dont nous, on a besoin déjà pour ensuite donner à partir de ce meilleur endroit.
C'est ça. Donc, c'est tout sauf nombriliste. C'est le passage obligé pour pouvoir déployer la générosité, la collaboration, le déploiement de toutes ces ressources qui sont disponibles.
Trop bien, trop bien. Merci. Ça me parle à fond et je suis hyper heureux qu'on partage ça juste avant ma question préférée de ce podcast qui est toujours la dernière qui est si tu as une question, tu as le droit de poser une question à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices pour que chaque personne prenne un vrai temps de réflexion sur son activité, mais aussi sur sa vie d'indépendant après cet épisode. Quelle question tu as envie de leur poser?
Alors, la question que j'ai envie de leur poser, c'est en admettant qu'ils écoutent ça au début d'une journée ou en tout cas emportés dans leur prochaine journée de travail, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire vivre le plaisir de faire ce que je fais sous ce statut d'indépendant aujourd'hui. Parce qu'en fait, je pense que c'est le plaisir, c'est souvent la première chose qui tombe sur le côté de la route dès qu'on a une difficulté, dès qu'on a un challenge, dès qu'on doute. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui doit rester au centre d'une pratique freelance ou indépendante. C'est que personne ne vous a obligé à faire ça. Il y a mille autres choses que vous pourriez faire qui sont plus simples. Donc, en fait, c'est de continuer à nourrir et à faire vivre la raison pour laquelle vous pratiquez cette activité avec ce statut-là et ce format-là. Il y a une bonne raison, mais cette bonne raison, vous allez pouvoir y accéder si au quotidien, vous trouvez et vous créez des opportunités de ressentir du plaisir dans les interactions, du plaisir dans l'apprentissage, du plaisir dans le faire, dans la création, etc. Et du plaisir parfois de surmonter un obstacle qui était une épine dans notre chaussure. En fait, ça peut être des ouais. plaisirs, des plaisirs un peu en revers d'une difficulté. Mais à mon sens, c'est très important de garder ça parce que, en fait, sinon on oublie et on peut passer toute une carrière à être freelance dans la souffrance. Et à mon sens, c'est généralement pas pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie-là. Donc, la question, c'est comment est-ce que vous allez faire vivre aujourd'hui le plaisir de faire ce que vous faites de la façon dont vous le faites?
Trop bien. J'adore cette question. J'adore cette question et effectivement, je vous invite, chers auditeurs, à vous la poser tous les matins et pas juste une seule fois en l'entendant du micro de Clotilde.
Je suis d'accord.
Merci Clotilde pour cette discussion. Franchement, très très heureux de tout ce qu'on s'est partagé. S'il y a des personnes ici présentes qui veulent approfondir et qui peut-être te découvrent, j'espère qu'il y a des gens qui te découvrent et qui du coup ont des heures et des heures de podcast devant eux sur Change Ma Vie. Où est-ce que je les envoie pour qu'elles découvrent plus de choses sur toi, ton travail?
Alors, donc, le podcast s'appelle Change Ma Vie et est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et pour accélérer votre prise en main de notre approche, le mieux, c'est notre programme de coaching qui s'appelle donc Change Ma Vie Mode d'Emploi et qui est ouvert aux inscriptions sur changemavie.com/coaching.
Super, merci beaucoup. Et vous avez aussi le compte Instagram Change Ma Vie, je crois que c'est ça.
C'est @oui change ma vie, parce que Change Ma Vie, oui, c'est quelque chose. C'est @oui change ma vie.
Ok, super. Ben, merci Clotilde, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, mais...
Non, bah, j'étais très heureuse de cet échange, Thomas, merci beaucoup. Et merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont écoutés.
Bonne journée à toutes, ciao.
J'espère que cette conversation t'a tout autant fasciné à l'écoute qu'elle ne m'a fasciné moi à y participer. Et tous ces échanges avec Clotilde n'ont fait que renforcer cette conviction que j'ai et que j'ai vraiment à cœur de te partager, qui est que ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on appelle ça mindset, monde intérieur, développement personnel, peu importe, c'est le point de départ de tout ce qu'on cherche à créer à l'extérieur. Et il y a un coach américain que j'adore, qui en parle très bien, qui s'appelle Michael Neal, qui parle du « inside-out understanding », en disant que ce que nous vivons, notre expérience dans le monde, c'est en fait le ressenti de nos pensées, et pas la conséquence d'une sorte de réalité universelle qui est la même pour tout le monde et qui nous vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui ancre cette conviction en moi que, quand on transforme son monde intérieur, le monde autour de nous commence à se transformer lui aussi. Et j'espère sincèrement avoir l'honneur de faire un bout de ce chemin avec toi sur cette voie de la transformation intérieure. Mais en attendant le bon moment, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.